Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal présenté par Pascal Masserica.
À la une de l'actualité, en Ituri, une centaine de finalistes du secondaire du territoire de Djougou ont pu passer les épreuves préliminaires de l'examen d'État grâce au soutien des casques bleus de la MONUSCO. Ils ont été transportés de Boulé à Fataki, une zone en proie aux miliciens. Catastrophe naturelle du territoire de Calais. Le gouverneur du Sud Kivu appelle ses administrés à assister au plus vite les sinistrés. Théongwa Bidje fait remarquer que quel que soit le niveau d'intervention du gouvernement central, les besoins sont immenses. Notre invité, c'est le directeur de la Fédération des entreprises du Congo, du Maniema. Pierre Wassalilua affirme que les opérateurs économiques de son ressort menacent de fermer leurs portes dans deux ou trois semaines si la SNCC n'achemine pas au plus vite les marchandises qui traînent dans leurs wagons à Kongolo, Samba et Kisangani. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, une centaine de finalistes du secondaire du territoire de Djougou ont pu passer les épreuves préliminaires de l'examen d'État grâce au soutien de la MONUSCO. Selon la société civile locale, ces élèves ont été transportés de Boulé à Fataki, une zone en proie aux miliciens. Cette structure citoyenne salue la collaboration qui existe entre la population et les casques bleus. À Bounia, la correspondance d'Isaac Remoyope.
Selon la société civile du territoire de Djougou, les miliciens de la Côte d'Éco circulent avec leurs armes dans certaines localités le long de l'axe routier Boulé Fataki long d'environ 15 km. Cette milice a mené plusieurs attaques sur ces tronçons. Par crainte pour leur vie, les élèves finalistes ne voulaient pas se risquer sur cette route pour aller passer les épreuves préliminaires dans leur centre à Fataki, précise le président de cette structure. Leurs parents se sont donc tournés vers la MONUSCO pour solliciter l'appui des casques bleus. Ils ont assuré les transports aller et retour de ces candidats en toute sécurité. Après avoir passé leur examen, ces finalistes ont rejoint leur famille ce mercredi. Témoignage du commandant du contingent bangladais.
Nos membres qui sont vers Boulé, la population locale leur avait demandé de convoyer donc leurs enfants de Boulé jusqu'à Fataki et nous avons fait ça. Ces enfants-là vont avoir leur diplôme grâce à notre effort.
La société civile du territoire de Djougou indique que sans cette intervention de la MONUSCO, ces élèves n'auraient pas puis passer les épreuves. Gilles Touba.
C'est une bonne action. Un groupe d'élèves serait difficile d'accéder Fataki au pour leur examen d'État. C'est une route qui est pratiquement interdisée à cause de l'attaque de Kodeko plusieurs fois.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province de Maïndombé, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été partiellement organisées dans le territoire de Kouamout. Plusieurs candidats à l'épreuve n'y ont pas participé suite à l'insécurité qui sévit ces jours-ci sur l'axe Massiambio-Kouamout. Le président de la société civile locale met le gouvernement central devant ses responsabilités. Martin Fouta le dit à Irène Boma.
La dissertation est passée partiellement dans le territoire de Kouamout. Pourquoi ? Parce que il y a des villages qui ont organisait les centres des examens d'État et qui étaient attaqués. Donc je cite beaucoup, Machambio, Nenko, ils ont repris la mode de vie en retard. Donc les écoles de là ne sont pas opérationnelles. C'est ce qui a fait que les centres ne soient pas organisés. Même à Famoussou, il y a un troisième centre qui est organisé souvent avec les écoles de l'axe Chénal. Alors puisque cet axe-là, les enfants n'ont pas repris cours suite aux attaques des assaillants, alors le troisième centre de Kouamoutou Cité n'est pas opérationnel. Il y a que deux centres qui sont opérationnels à Kouamoutou Cité et un centre en Gambom opérationnel et l'autre centre à Kabankou. Pour les autres sites là, les centres ne sont pas opérationnels. Les enfants sont sacrifiés vraiment en grande partie. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures disponibles pour que la paix soit rétablie en sorte que l'année prochaine, tous les centres soient vraiment opérationnels.
Oscar Lukusa, le chargé de communication du gouvernorat, rassure que des dispositions sont prises pour que les candidats de Kouamout participent eux aussi à la session ordinaire proprement dite. Retour sur la catastrophe naturelle du territoire de Kalehe au sud Kivu. Le gouverneur de province appelle à la mobilisation générale pour assister les sinistrés. Teungwa Bijekasi affirme que quel que soit le niveau d'intervention du gouvernement central, les besoins des sinistrés sont immenses. Appel lancé hier à Nyamukubi.
C'est une catastrophe naturelle. Donc le plus important est que le gouvernement central et surtout le chef de l'État a montré son amour pour cette population. Mais il faut que tout le monde vienne nous aider. Ça s'est passé hier, ça aurait donné quelle mobilisation. Je veux aussi cette même mobilisation pour cette province qui est sinistrée aujourd'hui. Il n'y a pas que le président de la République. C'est aussi une occasion de sensibiliser toutes les personnes de bonne volonté et la communauté internationale. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Plus de 400 morts. Et ce bilan n'est que provisoire. Où est la communauté internationale? Il faut que les gens se mobilisent autour du gouvernement central qui a pris ses responsabilités. Et nous, nous avons à commencer le gouvernement provincial. Voilà. Moi, je voudrais plutôt le rendre hommage au personnel soignant, aux médecins, aux secouristes qui ont bradé les risques pour sauver les vies humaines, mais aussi s'occuper et enterrer dignement et d'une façon sécurisée les populations ici. C'est une catastrophe. Donc, je tiens à dire merci à toute la population, surtout à tous les secouristes. À vous tous aussi les hommes des médias, passe la bonne information, restons mobilisés face à ce sinistre et à cette tragédie qui a frappé les territoires des Kalehe.
Sud Kivu, encore près de 1000 personnes parmi lesquelles il y avait des pêcheurs, des mamas vendeuses de poissons et autres consommateurs ont manifesté ce jeudi du rond-point Kavimvira jusqu'à la mairie d'Uvira. Sur place, ils ont déposé un mémorandum. À l'appel de la nouvelle société civile congolaise, les manifestants protestaient contre la fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika à partir du 15 mai sans mesure d'accompagnement. Reportage à Uvira de Fiston Goma Mayabala.
Des épaves de canots et pirogues, des filets et des bois morts ont été placés sur la route et des pneus brûlés au quartier Kasenga. Le secrétaire de la plage Mourant via Biamungu Fuanda Gloire.
Si on doit prendre en considération la fermeture des activités du lac, qu'on prenne d'abord en considération la prise en charge de la population qui dépend des activités de pêche et les marées qui dépendent directement de ces activités. Le problème est que à la reprise des activités, les filets que nous avons, nous n'allons pas les utiliser. Sans financement, sans leur appui.
L'autorité urbaine a souligné que cette revendication des pêcheurs était fondée. Kapenda Kifara Kiki est l'adjoint au maire de la ville d'Uvira.
Nous venons de recevoir leur mémo et nous allons transmettre et faire un plaidoyer pour démontrer exactement que la population n'est pas du tout contente par rapport à la mesure et que les gouvernements qui travaillent pour la population va voir exactement avec d'autres partenaires qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette mesure. Mais la mesure elle-même est salutaire, est bonne pour la population.
Les activités ont repris timidement en début d'après-midi. Cependant, la police est toujours déployée dans des points chauds de la ville pour parer à toute éventualité. D'Uvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
La fermeture de la pêche dans les quatre pays riverains est l'une des mesures qui ont été prises dans le cadre du projet financé par l'Union européenne et mise en œuvre par la FAO et l'autorité du lac Tanganyika. Objectif affiché, favoriser une croissance économique par la promotion d'une pêche durable. Le superviseur national de la zone centre-nord qui comprend Uvira et Fizi affirme que le financement des activités de pêcheurs est attendu. Mouzoumani rassure en même temps que les autorités ont été sensibilisées depuis une année. Quant à ce, il le dit à Fiston Goma Mayabala.
C'est pour permettre au lac de se reposer un peu, permettre aux poissons de se reproduire pour que la pêche redevienne rentable. Je tiens à vous signaler ici que la production halieutique est devenue insignifiante, très faible. Les pêcheurs qui payent leur licence accumulent de dettes de carburant parce qu'ils ne gagnent plus rien. Avant, ils gagnaient des caisses et les remplissaient des sacs. Maintenant, ils rentrent avec des bocaux, des seaux. Toute la nuit, vous rentrez avec un seau. Cette personne qui travaille toute la nuit, ils rentrent avec un seau, d'ailleurs, qui n'est pas rempli de poissons. Et une quantité qui ne peut pas même rembourser la facture de carburant. C'est déplorable. Voilà la réalité. Qu'on ne se voile pas la face. Comme l'a dit le directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika, c'est depuis 2015 qu'on a senti la baisse sensible. Et le cri est venu des pêcheurs depuis 2015 jusqu'en 2018. Alors l'autorité du lac Tanganyika ne pouvait pas croiser les bras. Il a recruté des chercheurs dans les quatre pays. Ils ont fait des recherches et ils ont remarqué que le stock a diminué, ce qui s'est traduit par la baisse de la capture halieutique. Donc il fallait faire quelque chose pour restaurer le lac.
Partons maintenant pour la province du Nord Kivu où les zones de santé de Lubero et de Mangoredjipa n'ont pas d'ambulance pour les urgences. Ces deux entités de près de 400 000 habitants peinent actuellement à régler les problèmes de santé en cas d'urgence, selon le vice-président de l'Assemblée provinciale qui revient de Lubero. Jean-Paul Lumbulumbu s'est confié à Denise Lukesso.
C'est que la zone de santé de Lubero, par exemple, qui encadre plus de 340 000 habitants, avec 21 centres de santé, évolue dans un bâtiment très vétuste, construit depuis 1925 et qui a besoin de réhabilitation, sinon de la construction de nouveaux bâtiments. Mais à côté de cela, imaginez-vous plus de 340 000 habitants. L'hôpital général de référence de Lubero n'a pas d'ambulance, n'a pas une morgue suffisante. Nous avons été voir le gouverneur pour lui exposer ces problèmes-là. Et ces problèmes se posent également dans la zone de santé de Mangoredjipa, qui encadre à elle 94 000 habitants, et qui a aussi besoin d'une ambulance. Nous avons pensé que c'était important que le gouverneur puisse activer des mécanismes permettant l'affectation des ambulances qui étaient jadis utilisées dans les programmes de la lutte contre Ebola, pour les mettre à la disposition de zones de santé qui en avaient besoin. Dans ce secteur-là, nous avons été totalement satisfaits de la réponse réservée par le gouverneur.
Attentif à cette préoccupation formulée, le gouverneur du Nord Kivu a promis de trouver une solution. Et puis, plus de 200 femmes déplacées ont bénéficié les 30 derniers jours d'un service d'avortement sécurisé dans le site de Boulengo. C'était au cours d'une campagne des soins de santé sexuelle et reproductive initiée par l'ONG IPAS RDC. Ces survivantes des viols ont reçu chacune ce jeudi un kit de dignité. À Goma, la correspondance de Bernard Danyangi.
Du 11 avril à ce 11 mai 2023, des centaines de femmes déplacées du site de Boulengo ont été sensibilisées sur la matière des soins de santé sexuelle et reproductive. Pendant cette campagne, d'autres ont été consultées pour bénéficier du service d'avortement sécurisé, dit le point focal de IPAS, Dr Célestin Iango.
IPAS travaille pour que chaque femme ait le droit de disposer de son corps. Et il était question de donner les soins liés à l'avortement, à la planification familiale. Nous avons eu plus de 200 cas de demandes d'accès à ces soins d'avortement sécurisés. Et nous l'avons fait correctement. À ce jour, nous n'avons aucune complication qui peut être associée à ces soins.
Les bénéficiaires disaient apprécier ces services qui, selon elles, a été nécessaire surtout pour les femmes ayant été rendues grosses à la suite des actes de viol. L'une d'elles témoigne.
Nous, ce ne sont pas nos maris qui nous ont engrossés. C'est pendant notre déplacement que nous avons été violés et nous nous sommes retrouvés avec des grossesses indésirables. Cette sensibilisation était vraiment nécessaire pour nous.
Plus de 200 kits de dignité contenant un pagne et des produits d'hygiène menstruelle ont été distribués par IPAS à ces femmes déplacées de Boulengo lors de la clôture de cette campagne. Goma, Bernard Dengue, Radio Okapi.
Justice à présent. Deux généraux des FARDC et de la police nationale congolaise comparaissent devant la haute cour militaire ici à Kinshasa. Emmanuel Lombe et Vumilia Tendilonge, respectivement ex-général de brigade de la 21e région militaire et ex-commissaire général de la police au Kasaï central, sont poursuivis par l'auditeur général pour crimes contre l'humanité. Mardi dernier, les parties au procès ont réclamé la tenue d'une audience foraine dans la ville de Kananga, lieu des crimes, l'augmentation du nombre d'avocats, d'une des parties civiles et la protection des victimes. La cour militaire a promis d'y répondre à l'audience du 15 mai prochain. Rappel des faits avec vous, Jeff Ngoy.
Vumilia et Lombe sont chargés par le ministère public du rôle qu'ils auraient joué dans les atrocités du phénomène de Kamuina Nsapu entre 2016 et 2017 au quartier Mulombodi, dans le périmètre de l'aéroport de Kananga. Selon le ministère public, ce site était transformé en un espace de viol et de meurtre. Mirande Mulumba, président de l'Association nationale des victimes de Mulombodi et du phénomène Kamuina Nsapu, apprécie le comportement des juges.
Et ce qu'il faut saluer ici est que l'impartialité du juge, étant donné que il a voulu absolument qu'il fallait, à la demande de l'une des parties civiles, qu'il était impérieux que les audiences se déroulent sur les lieux de la scène de crime. Et ce serait aussi beaucoup plus symbolique pour permettre aux victimes de pouvoir voir en face leur bourreau.
La chaîne des accusés est encore longue.
Ce procès n'est pas nécessairement judiciaire, mais ce qui est aussi purement politique, parce que ce n'est qu'un début qui va devoir ramasser aussi beaucoup plus d'autres prévenus. Il n'y a pas que ces deux-là. L'appel vibrant que nous lançons à tous nos partenaires pour augmenter les avocats conseils, pour nous éviter la déficience qui serait de tourner à mal contre les victimes. Nos partenaires peuvent encore envisager de prendre un échantillon de victimes qui peuvent ramener à Kinshasa.
C'est le 20 mars que le procès s'est ouvert. Le 8 mai, les partis ont soulevé des exceptions dont on attend la décision de la Cour.
Actualité internationale.
L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé ce jeudi matin l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine. Devant la presse locale aujourd'hui à Pretoria, Ruben Brighetti a indiqué que les États-Unis d'Amérique sont convaincus ces jours-ci que des armes et des munitions ont été chargées à bord d'un cargo russe amarré près du Cap début décembre 2022 avant de repartir vers la Russie. Le diplomate américain fait remarquer qu'armée actuellement les Russes est extrêmement grave. À New York, pendant ce temps, le principal organe de lutte contre les violations des droits humains des Nations Unies a adopté ce jeudi après-midi une résolution qui renforce davantage le suivi et la documentation des exactions commises au Soudan. Cette résolution a été adoptée par 18 voix pour, dont celle de la France et des États-Unis, 15 voix contre, dont celle de la Chine et de plusieurs autres pays africains, et 14 abstentions. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme convoqué à la demande conjointe du Royaume-Uni, de la Norvège, des États-Unis et de l'Allemagne.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de la Fédération des entreprises du Congo du Maniema. Pierre Ouassoualila affirme que les opérateurs économiques de cette province menacent de fermer leurs portes dans 2 ou 3 semaines si la SNCC n'achemine pas leurs marchandises qui traînent dans leurs wagons à Kongolo, à Samba et à Kisangani. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Ouassoualila Ntongue, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a quelques mois que vous avez passé sur nos ondes pour plaider sur la situation de nos routes qui ne facilite pas les activités économiques en province. C'est comment la suite aujourd'hui?
Madame, nous étions passés sur la chaîne Radio Okapi pour dénoncer la situation de dégradation très avancée de nos routes. Et après cette dénonciation, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'amélioration. La situation n'a fait que s'empirer.
Et comme la situation s'empire, je pense que cela a des répercussions sur le prix des marchandises.
Exactement, madame. Vous savez, il y a la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a rareté sur les marchés, ça ne peut que hausser les prix des biens et services. C'est tout à fait normal. Il y a aujourd'hui carence de certains produits d'ailleurs, qu'on peut vous citer ici. Les tôles BG32 qui s'achetaient à 20 000, 22 000 francs, aujourd'hui se négocient à 35 000 francs congolais. Les ciments, quand nous avons dénoncé, il y a eu un coup de pouce au niveau de Kisangani et ça a quitté de 50 à 30 dollars, à 28 d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la hausse de ces produits continue à se faire encore sentir. Aujourd'hui, je vous parle, le prix d'un sac de ciment, c'est à 35 dollars. Vous imaginez vous-même la suite dans 3 semaines.
Nous avons vu une lettre que vous avez adressée au directeur général de la Société nationale des chemins de fer congolais à Lubumbashi. Peut-on savoir le contenu de cette lettre?
Nous avons adressé cette lettre au directeur général de la SNC pour exprimer notre ras-le-bol. Parce que vous savez, madame, on ne sait pas si la province du Maniema ou les opérateurs économiques qui œuvrent de Maniema sont dans une province qui n'est pas dans la RDC. Pourquoi ils ne sont pas traités comme les autres? Pourquoi nous avons adressé cette lettre au directeur général de la SNC pour libérer les locomotives qui transportent les marchandises en destination de Kindu? Sinon, la situation ne va pas, madame.
Il y a combien de wagons qui traînent en route?
En tout cas, selon les informations fournies par nos membres, il y a 40 wagons à Kongolo, il y a 10 wagons à Samba, il y a 32 wagons à Kisangani, et sans pourtant compter les autres marchandises qui traînent dans leurs entrepôts. C'est pourquoi nous avons demandé à monsieur le directeur général de s'impliquer afin de donner une solution favorable. La solution qui est d'envoyer les locomotives pour tirer les wagons qui traînent pour rien sur la ligne Kindu.
Avec quelle priorité? Vous voulez qu'on priorise quel type de marchandises?
Bon, vous savez, madame, la province du Maniema est en pleine exécution des projets de développement sur 45 territoires. Et ce projet est un projet salutaire pour la population du Maniema. C'est pourquoi nous avons estimé qu'on priorise les matériels de construction. Parce que l'entreprise Safricas, qui est chargée d'exécuter ce projet en province, fournit beaucoup de demandes de matériels de construction. Et si les opérateurs économiques n'ont pas de stock conséquent pour livrer à Safricas, je crois que ça aura un impact négatif sur la réalisation de ces projets. Il n'y a pas de route au Maniema où on va prendre notre alternative pour acheminer des marchandises. Il n'y a pas de route.
Au cas où la SNTC ne répondait pas favorablement à votre lettre, comment allez-vous vous comporter?
Nous avons demandé à nos membres si la SNCC ne répond pas favorablement à notre demande de fermer leur magasin. Parce que je vous donne une information, madame. Quand votre magasin est ouvert, il y a des taxes ponctuelles que vous allez payer qui ne sont pas des taxes mensuelles, annuelles ou trimestrielles. Il y a des taxes journalières que vous devez payer. Et si l'État voit votre magasin ouvert, même si vous ne vendez pas, on va venir ponctuer quelque chose au profit de l'État. Alors, pour éviter tout ça, nous allons seulement demander à nos membres de fermer jusqu'à ce que nous aurons gagné des causes à notre demande. Nous accordons des semaines au directeur général de la SNCC. Parce qu'il y a d'autres lignes où les wagons sont tirés régulièrement. Mais pourquoi seulement les Maniema? C'est là où ça blesse.
Et en fait, pour terminer, monsieur Wassolou Lantong, nous avons appris que vous avez suspendu les protocoles d'accord sur les produits pétroliers. Qu'en est-il?
Effectivement, madame, comme vous l'avez appris, nous avons signé en 2017 les protocoles d'accord consacrant l'instauration de la taxe sur les produits pétroliers au Maniema. L'idée était de doter le gouvernement provincial du Maniema des recettes additionnelles pour l'aider à réaliser certains projets d'impact visibles. Mais fort malheureusement, nous avons constaté que les recettes ici de cette taxe étaient canalisées pour les besoins de fonctionnement de la province, et déroutant ainsi l'idée idéale de la création de cette taxe. C'est comme ça que nous avons levé l'option de suspendre la dite taxe. Maintenant, après les pourparlers avec le gouvernement provincial, nous sommes arrivés à un consensus qui a débouché par la signature d'un avenant. Et les jours à venir, les recettes qui seront générées par cette taxe ne seront plus utilisées pour les besoins de fonctionnement, mais plutôt à la réalisation de certains projets à impact visible, notamment la réhabilitation de nos routes.
Monsieur Wassolou Lantong, merci.
À moi de vous remercier, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de la Fédération des entreprises du Congo au Maniema, Pierre Wassoua-Lila, était interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté. Richard Junior Kamunga m'a accompagné sous la supervision de Pele Kipelamondo.